Cette histoire est l'une de celles qui présente le plus de risques de n'être pas comprise. En effet, elle vise à expliquer cette phrase de Jésus dans l'Évangile. Il la disait aux prêtres de Jérusalem, aux pharisiens, aux sadducéens. Les prostituées et les pécheurs vous devancent dans le royaume des cieux. Et évidemment, mal comprise, eh bien, elle pourrait signifier que finalement, autant se prostituer, on ira plus vite au paradis. Et saint Paul, qui voyait bien l'objection, à savoir, puisque là où le péché avait abondé, la grâce avait surabondé, demandait « Est-ce donc qu'il faut pécher ?» Et il répondait « certes non, si on a été délivré du péché, c'est pas pour retomber dedans. » Seulement, je voudrais raconter cette histoire parce qu'elle manifeste une chose très importante sur la rapidité avec laquelle on va au ciel. Ça se passe à l'époque du régent Philippe d'Orléans. L'histoire de France raconte que cet homme-là était tombé dans des vices, dans une décadence totale. Il avait un complice qu'il avait réussi à faire nommer cardinal d'ailleurs, l'abbé Dubois, qui lui organisait des parties fines. Alors évidemment, c'était dans le style de l'époque, avec des déguisements. Mais il y avait des prostituées de luxe qui étaient invitées à venir. Et ces réjouissances des plus hautes autorités de la France descendaient jusqu'au peuple, qui soit en ricanait, soit s'en scandalisait. Un jour donc, le cardinal Dubois avait organisé une de ces parties fines. Et il avait invité toute une série de prostituées de luxe. Pas des prostituées de la misère. Non, de véritables call girls de l'époque, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'il les payait très cher, elles étaient très raffinées. Et elles étaient un peu comparables à Marie-Madeleine, qui n'était pas pauvre dans l'Évangile. Puisque, si c'est bien elle, on pense qu'elle avait versé un jour aux pieds de Jésus l'équivalent d'un an de salaire en parfum, pour l'honorer de l'avoir accueilli, de ne l'avoir pas écrasé sous la condamnation. Et donc, lors de cette partie-là, alors que tous les invités s'amusaient, le régent fut pris d'une attaque et il tomba par terre. Alors, il faut imaginer tout de suite l'arrêt de la musique, l'embarras des invités, certains s'éclipsent. On prévient comme on peut des médecins. C'est la panique totale. Et l'une des prostituées, Fidéline, au lieu de se sauver, était restée près du régent et portait sa tête sur ses genoux en lui disant « Les secours vont venir, Monseigneur, les secours vont venir, tenez bon !» Et là, dans l'agitation qui était autour d'eux, ils eurent le temps d'avoir une petite discussion. Et le régent, qui était plutôt franc-maçon, comme on pourrait, si ça peut exister à l'époque, disons libre penseur. Le régent lui dit « Vous portez une médaille de la Vierge. Vous y croyez, vous qui faites ce métier-là » Il parlait dans un souffle. Et Fidéline lui dit « Oui, j'y crois. C'est ma mère qui m'a appris à l'aimer. Et vous n'avez pas peur d'aller en enfer ?»« Si, Monseigneur. » C'est mal ce que je fais. Mais j'espère, j'ai une grande confiance que Dieu aura pitié de moi. Parce que je ne pourrai pas m'arrêter, je crois. Les secours arrivèrent. Fidéline eut le temps de lui dire « Confiez-vous à la Sainte Vierge. » Et ils emmenèrent le régent, qui ne mourit pas cette nuit-là, qui vécut encore quelques années. Et qui oublia évidemment le visage de Fidéline, mais se souvint tout de même toute sa vie d'une parole qu'elle lui avait dite. 25 ans plus tard, Fidéline avait plus de 40 ans. Elle continuait de se prostituer, mais son corps s'était alourdi. Elle n'était plus du tout dans les prostituées de luxe. Elle avait eu une fille entre-temps, et comme elle avait honte de lui avouer son métier, eh bien, elle l'avait placée dans une pension religieuse, et elle payait pour qu'elle ait la meilleure éducation possible. Or, un jour, elle se sentit malade. Et elle comprit bien qu'elle allait mourir. Alors, toujours sans oser aller voir sa fille, elle s'arrangea avec un ami pour lui faire parvenir une somme importante afin qu'elle fasse sa vie plus tard. Et la maladie s'aggrava et Fidéline mourut. Mais avant de mourir, elle fit appel à un prêtre. Elle voulait se confesser, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 23 ans. C'est vrai que, à l'heure de la mort, souvent la foi de sa jeunesse revient. Le prêtre vint donc, et là, pour la première fois, elle dit tout, sans exception. Elle n'avait rien à cacher, elle ne voulait rien cacher. Elle raconta sa vie de prostitution, cette vie qui n'était pas connue dans son quartier. Elle raconta les orgies du temps du régent de France. Et le prêtre fut complètement étonné et il l'interrogea et lui dit « Mais vous regrettez ? Et pourquoi vous vous confessez si tard ?» Et Fidéline, qui n'avait aucun intérêt à rien cacher, lui dit « Ben, mon père, c'est parce que je ne voulais pas arrêter en fait. Je n'avais pas de volonté d'arrêter. Ma vie me plaisait, j'aimais trop le plaisir, j'aimais trop l'argent, je le reconnais, c'était une sécurité. Donc vous voulez dire que si vous guérissiez maintenant, vous recommenceriez ? Oui, mon père, je crois que je recommencerai, je crois. Mais pourquoi vous vous confessez alors ? Eh bien, mon père, parce que je regrette vraiment, vraiment. Dans leurs lettres, les prêtres doivent demander, quand ils confessent quelqu'un, qu'il ait une contrition totale, donc la volonté de ne pas recommencer. En même temps, on sait très bien ce que c'est qu'une confession. On sait très bien qu'on dit l'acte de contrition, je m'engage à ne pas recommencer, et qu'on retombe systématiquement toute sa vie dans les péchés du même genre. Il n'y a pas d'hypocrisie dans cette demande de l'Église, mais elle applique simplement le commandement de Jésus qui disait qu'il fallait pardonner non pas une fois, sept fois, mais sept fois, 77 fois, ça veut dire sans arrêt, sans arrêt. Parce que Jésus connaît les âmes, il connaît notre faiblesse. Et le prêtre, dans son jugement, c'était une époque de retour à une exigence de morale, se dit qu'elle n'avait pas une vraie contrition, puisqu'elle avouait qu'elle aurait recommencé. En réalité, elle avait une vraie contrition, mais elle disait toute la vérité, que souvent nous nous cachons. Et donc lui, jugeant un peu de l'extérieur, eh bien il décida de lui refuser l'absolution. Et donc Fidéline mourut sans l'absolution, avec les craintes qu'il y avait à l'époque, puisque on avait beaucoup centré sur les sacrements et on pensait souvent que si on mourait sans les sacrements, c'était l'enfer éternel. Et donc Fidéline arriva de l'autre côté. Mais la nuit même où elle mourut, le prêtre aussi mourut. Et c'est pour comparer leurs deux destins que cette histoire est faite. Donc Fidéline et le prêtre virent se réaliser cette parole de Jésus qui est annoncée et qui se réalisera, qui est liée au jugement dernier, à savoir que cette génération, c'est-à-dire la nôtre, est perverse. Et qu'au moment du jugement, la génération qu'on croyait pire, par exemple celle de Ninive, se lèvera et par sa simple présence, en voyant ces gens-là, elle nous condamnera. En ce sens qu'on verra ce qu'on aurait pu faire si vraiment on avait voulu aimer. Et tous, sans exception, on connaîtra ça parce que personne ne peut dire qu'il a assez aimé. Eh bien, Fidéline connut cela. Elle vit apparaître une dame aux mains gercées et elle ne savait pas qui c'était, mais elle vit qu'elle avait été veuve pendant sa vie, assez tôt. Elle était mariée à un homme plus âgé qu'elle et qu'elle avait travaillé pour nourrir son garçon avant que celui-ci prenne en main les affaires familiales pendant un certain temps. Et il vit qu'elle ne s'était pas prostituée, elle le vit. Mais dans le regard de cette femme qui lui apparaissait, il n'y avait pas de condamnation. Simplement, la vue de sa vie à travers la lumière de son corps, qui ne cachait rien de son âme, en fait, qui cachait son nom, qui cachait beaucoup de choses, Fidéline le comprit plus tard, révélait à Fidéline ce qu'elle avait pressenti toute sa vie, qu'elle aurait pu travailler de fait, qu'elle aurait pu élever sa fille, qu'elle aurait pu éviter de se livrer à l'amour du plaisir et de l'argent. Et la dame ne dit rien. Elle s'effaça un peu, et voilà qu'arriva le régent Philippe d'Orléans, qui lui était mort depuis plus longtemps, et qui dit à Fidéline, rayonnant de joie, « Fidéline, j'ai failli me perdre, mais vous savez pourquoi j'ai été sauvée ? C'est grâce à vous. Vous vous rappelez, vous m'aviez dit juste avant que je ne sois emmenée, qu'il fallait appeler la Sainte Vierge. Eh bien, quand je suis mort, j'y ai pensé. Je me suis souvenu de cette parole-là. J'ai appelé la Sainte Vierge et elle m'a complètement entraînée vers le paradis. J'ai regretté mes fautes. Oh, j'ai encore à me purifier, mais j'ai été sauvée. » Et Fidéline, tout inquiète, tout en larmes, lui dit, « Et moi, vous pensez que je verrai la Sainte Vierge ? Parce que je ne l'ai pas vue. » Et le régent lui dit, « Ayez toute confiance, rappelez-vous ce que vous me disiez, ayez toute confiance. » Et au lieu de voir la Sainte Vierge, Fidéline se trouva confrontée à l'apparition de Lucifer. Il était triomphant, il apparut exactement à la façon qui lui correspondait, ça veut dire que il n'était pas un diable cornu du tout. Il lui présentait l'enfer qui était parfaitement adapté à l'égoïsme de Fidéline. Un lieu de joie, de liberté, de plaisir, de sécurité. Mais en même temps, Fidéline voyait bien la solitude, la froidure dans le cœur de cet ange révolté. Et Lucifer lui disait, « Mais tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est ta vie. Tu ne vas pas maintenant renoncer à ce que tu es, tu l'as fait toute ta vie. Même le prêtre, au moment de te confesser, ne t'a pas donné l'absolution parce qu'il faut être honnête avec toi-même. Tu es faite pour ça, tu le reconnais toi-même. » Et Fidéline disait à Lucifer, « C'est vrai ce que vous dites, c'est vrai, je suis comme ça, mais moi, quand même, je ne suis pas fait pour vivre comme ça dans votre monde solitaire. Et je sais que je suis fait pour vivre avec de l'amour et je sais que c'est égoïste, c'est parce que je ne serai pas heureuse. Mais je suis désolé, je ne suis pas fait pour votre monde. Est-ce que la Sainte Vierge va venir ?» Et à peine avait-elle dit ça, que la dame aux mains gercées revint, s'approcha. Et le démon s'enfuit dans un grand bruissement. Et Fidéline reconnut que cette dame-là était la Sainte Vierge, tout simplement. Elle dévoila simplement un peu plus de son cœur. Et elle ne vit pas seulement les mains gercées, mais elle vit l'Immaculée Conception. Et tout l'amour, toute la compréhension, toute la miséricorde, elle comprenait parfaitement toutes les luttes qu'avait eues Fidéline. Et dans son regard, il n'y avait pas de condamnation, mais la vérité. Simplement, elle mettait en avant le bien. Tu as élevé ta fille comme tu pensais être le mieux, tu l'as mis dans la meilleure pension. Quand les gens étaient dans la misère, tu t'en es occupé toujours. Et Fidéline, évidemment, se tourna vers la Sainte Vierge qui l'amena à Jésus. Et elle était vraiment prête à être séparée d'eux, à payer tout, à passer son éternité au purgatoire. Elle disait à Jésus, « Tu sais, je ne serai jamais digne de toi. Je suis sûr que je reviendrai sur terre, je recommencerai les mêmes choses. » Eh bien, ce jour même, elle entra dans la vision béatifique. Parce que, en fait, elle avait toutes les qualités que demande Jésus au niveau de la perfection. Alors qu'elle était dans les vices sur terre. Mais la perfection telle que Jésus l'aime, c'est pas un mépris de la vertu, loin de là. C'est ça qu'il faut éviter de croire à travers cette histoire-là. Simplement, c'est une vertu qui d'abord est fondée sur un cœur brisé, un esprit humilié. Ce que Fidéline ne pouvait qu'avoir, parce qu'elle savait bien ce qu'elle valait, elle qui avait vendu son corps pour de l'argent. Et pas pour survivre, hein, pas pour survivre et nourrir dans la misère une fille alors qu'elle mourait de faim. Non, elle aurait pu s'organiser autrement. D'autre part, c'est l'amour, et sa fidélité n'en avait pas manqué, elle avait un cœur très grand. Eh bien, tout naturellement, étant délivrée par la disparition du foyer de péché, à ce moment-là, les vertus sortaient naturellement de l'amour. Et lui aussi était mort ce jour-là, et lui aussi fut confronté au passage de la mort, là où se fait le choix, avant le jugement dernier. Tel que je l'ai présenté tout à l'heure, on pourrait croire facilement que c'était un homme dur, uniquement dur. Les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Il avait été un prêtre fidèle toute sa vie, et à une époque où il y avait beaucoup de vices, eh bien, il s'était efforcé de dire la vérité aux gens, de les inviter à la vertu, à fuir l'adultère. C'était sa façon de comprendre l'Évangile, et c'est une façon qui est vraie, même si, et c'était son principal défaut, il mettait les vertus avant la miséricorde, avant l'humilité, l'amour, alors que, normalement, dans l'ordre que Jésus aime, visiblement, les vertus morales sortent d'un cœur humble et aimant, et ce n'est pas l'inverse. Mais c'était une époque qui était très teintée de jansénisme, et il faisait partie de son époque. Donc le prêtre vit apparaître une femme. Et aussitôt, par la lumière qui émane de ces corps provisoires qu'on a avant la résurrection, eh bien il reconnut Marie-Madeleine, la prostituée. Et il vit toute sa vie. Il vit les 7 démons qu'elle avait eus en elle. Il vit la façon dont Jésus l'avait relevée le jour où elle avait failli être lapidée, parce que finalement c'était bien elle. Les exégètes en avaient douté. Mais il y a des surprises, parfois. Et par cette apparition, il comprit en un instant tout l'Évangile et tout se remit en place dans son cœur. Et il fut rouge de confusion. Oh, on pourrait se réjouir en disant « tant mieux pour lui, c'était un orgueilleux, c'était un homme dur ». Nous serons tous rouges de confusion. Même Fidéline l'a été. Parce que la vérité sur notre cœur, c'est que nous ne sommes jamais dignes. Et la seule personne qui a été digne, c'était la Sainte Vierge, eh bien justement, elle savait qu'elle n'était pas digne, mais profondément. Et donc le prêtre, brisé, une vie tout à fait retournée, considéra sa vie entière et dit à Marie-Madeleine, « Je vois à quel point je me suis trompé. Intercéder auprès de Jésus, je ne veux pas aller en enfer. » Et il ne vit dans Marie-Madeleine que de la bonté, que de la miséricorde. Et cela vraiment toucha profondément son cœur. Car il dut affronter ensuite un combat autrement compliqué. Voilà qu'il vit lui aussi Lucifer. C'est nécessaire. Pour un choix qui concerne l'éternité, Lucifer doit présenter l'autre monde. Et en voyant Lucifer dans une lumière angélique, magnifique, qui correspondait aussi à son âme, il comprit ce que pouvait être l'enfer et à quel point il pouvait être génial, adapté à son âme. Lucifer semblait dire « En enfer, on est vertueux, on a de l'honneur, on respecte l'autonomie des autres. » Certes, on est seul, parce qu'on est d'abord centré sur sa dignité. Mais il y a des vertus que tu as défendues. Le prêtre résistait, mais il sentait ses forces l'abandonner. Personne ne peut résister à la puissance de conviction de Lucifer. Personne ne peut résister seul. Il essaya tout de même de se débattre et appela Marie-Madeleine. Alors Lucifer insista en disant « Tu ne vas tout de même pas appeler cette prostituée à ton aide. Tu n'as pas donné l'absolution et tu as bien fait à une prostituée. Il faut tout de même être un peu carré. Elle ne se repentait pas. Et Marie-Madeleine était exactement pareille. Elle se repentait en apparence et elle retombait. Mais le prêtre, juste avant de céder et de partir en enfer, appela encore Marie-Madeleine. Il vit apparaître Jésus dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, qui aussitôt lui redonnèrent force. Et son cœur se tourna vers eux, évidemment. Bouleversé par cette terrible épreuve qu'il venait de vivre, il dit au Seigneur, « Je me rends compte à quel point je n'ai pas été un prêtre tout à fait selon ton cœur, mais je paierai pour chacune des choses que j'ai faites. Je suis prêt à aller au purgatoire, je deviendrai digne de ton amour. Je suis ton prêtre pour l'éternité, je n'appartiens pas à Lucifer. » Il y eut une grande joie dans le ciel, parce que cet homme-là, ce prêtre, était devenu vraiment, entièrement, ce jour-là, le prêtre du Seigneur. Alors il se mit au purgatoire, et il y est encore. Il n'y est pas encore parce qu'il est puni. Il y est encore parce que son caractère, malgré tout, est foncièrement celui d'un homme fier. Et il se plaît dans le purgatoire, en un certain sens, si bien qu'il ne se décourage pas. Alors que le but de ce purgatoire-là, c'est simplement qu'un jour, il renonce à croire qu'il pourra être un jour digne de Jésus. Mais il y arrivera. Il faudra le temps qu'il faut. C'est un temps plutôt psychique qu'un vrai temps, extérieur. Il y arrivera, tout à fait. Il est sûr d'aller un jour au paradis. Simplement, cette histoire montre à quel point est vraie la phrase de Jésus et que parfois les prostituées et les pécheurs, non pas à cause de leur prostitution et de leur péché, mais à cause du fruit que ça porte si ces personnes sont lucides sur elles-mêmes, le fruit de lucidité justement, d'humilité totale, eh bien ces personnes-là vont plus vite au paradis que certaines personnes vertueuses, mais qui parfois du coup, et ce n'est pas à cause de la vertu, c'est à cause du cœur de l'homme, développent une certaine fierté d'elles-mêmes. Or, et j'insisterai jamais assez là-dessus, pour voir Dieu, l'homme doit avoir un cœur brisé et renoncer même à des fiertés légitimes. Mais on ne peut pas renoncer à des fiertés légitimes comme cela. C'est impossible, il ne faut pas se forcer. Donc, pour y renoncer, il faut simplement avoir vécu une expérience profonde, totale de sa misère. Et il n'y a pas de plus forte expérience de sa misère que l'expérience d'un désespoir. Passager, mais un désespoir. Eh bien, le prêtre était dur au désespoir, si on peut dire. Alors, que conclure de cette histoire-là? Qu'il faut se réjouir quand des gens sur terre sont désespérés? Pas du tout. Cette histoire de désespoir, c'est Dieu qui en parle à la croix, quand Jésus dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une histoire qui ne concerne que Dieu, qui lui se charge de façonner notre cœur. Nous, ce n'est pas notre mission de désespérer les gens, ça serait de la folie. Notre mission, c'est d'aimer notre prochain. Qu'on laisse à Dieu sa mission. Comme disait Jésus à des disciples qui lui demandaient « mais qui peut être sauvé s'il faut ces conditions-là pour aller au paradis ?» Personne. Jésus répondait « à l'homme, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Ça veut dire que quand on est face à une personne désespérée, nous, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est l'entourer d'amour, l'aider, lui prendre la main. Mais ça n'empêche pas de connaître, en théologie, ne serait-ce que parce que nous sommes les amis de Dieu, et qu'un ami sait ce que veut faire son ami, à savoir Dieu, mais de connaître pourquoi, sur la terre, parfois Dieu ne répond pas et nous laisse sombrer dans des désespoirs. Dans l'autre monde, nous saurons pourquoi. Du coup, c'est souvent moins rapide, moins efficace. Est-ce que ça veut dire qu'il faut demander à vivre ce désespoir en cette terre? Non. il ne faut pas demander, ce serait tenter Dieu. Il faut simplement se remettre en ses mains pour qu'il le fasse au meilleur moment. Le moment, dirais-je, où le désespoir ne touchera que nous, mais ne viendra pas du fait que notre famille, par exemple, a été brisée. Souvent, ça se passe dans la vieillesse. Parce qu'une personne âgée, c'est simplement un ancien jeune, avec le même cœur, mais dans un vieux corps. Seulement, les enfants sont grands. Et il n'y a pas de plus grand désespoir. Non, je raconte n'importe quoi. Le désespoir, c'est le désespoir.